France Musique.
Jazz Collection, le piano jazz, une série proposée par Alex Dutille pour France Musique. Deuxième épisode, les oiseaux du bebop. Les oiseaux du bebop, Thelonious Monk, Bud Powell et les autres picoreurs. Un ange du bizarre, c'est ainsi qu'on pourrait qualifier Thelonious Monk, 1917-1982. Jamais une ligne droite, jamais un cercle rond, jamais une atmosphère paisible. Indifférent à la virtuosité pianistique, Thelonious Monk a préféré esquisser un nouveau monde. Monk a abandonné le lycée pour accompagner un évangéliste itinérant. Si, si. Il a suivi quelques cours à la Juilliard School de New York, à son retour de ce périple, mais il a quitté ce cadre académique en 1940 pour entamer un long séjour dans un club de Harlem, le Minton's Playhouse, où, pianiste de jazz maison, il a rencontré Charlie Christian, le guitariste, Kenny Clarke, le batteur, Dizzy Gillespie, le trompettiste et d'autres, tous ceux avec qui il allait inventer les bases théoriques du bebop. Et durant 25 ans, entre 1947 et 1970, Monk est apparu comme le plus atypique des modernes, délaissant les tempos survitaminés et les mélodies arpégées de Charlie Parker et de ses collègues qui voulaient éblouir le nouveau monde. La musique de Monk présente une autre vision dans laquelle la simplicité et l'angularité donnaient lieu à un univers résolument singulier, où le silence et la dissonance ajoutaient de nouvelles dimensions à des mélodies entêtantes. Thelonious Monk jouant April in Paris en 1947, une approche fracturée du clavier qui combine l'abstraction cubiste et le bebop. L'ère de la danse étant révolue, Monk y aborde le piano presque comme une guitare, pinçant et grattant le clavier et laissant des espaces béants, tout en faisant des clins d'œil au style de piano antérieur. À partir du milieu des années 50, le quartet de Thelonious Monk a fourni le modèle de ce qui reste une configuration iconique du jazz. Saxophone ténor, piano, contrebasse, batterie. C'est sans doute l'ensemble le plus équilibré et le plus emblématique du jazz moderne, la version jazz du quatuor à cordes de la musique classique européenne en quelque sorte. Mais la profonde étrangeté de Monk se situe avant tout dans ses quelques albums de piano solo. On est là au plus près de sa vérité, une approche du piano par la brisure, le discontinu, la vibration des silences, la cambrure de ses compositions, une puissance d'expression qui évoque l'art de la gravure de Albert Dürer, une force narrative au plus près des arts premiers, mais sous la rusticité, une sensibilité à fleur de peau. Thank you. Autant Thelonious Monk fut un des penseurs du bebop, autant Bud Powell, grosso modo son contemporain, 1924-1966, en fut un acteur. Fulgurant, mais à son corps défendant souvent, des problèmes d'alcool et de drogue, des violences policières, des pertes de mémoire, des séances d'électrochoc, la vie de Bud Powell fut chaotique, mais son apport au piano jazz absolument déterminant. Bud Powell fut peut-être le plus incandescent des pianistes bebop, transcrivant au clavier les géniales inventions de Charlie Parker, créativité, virtuosité et swing en supplément. Sa main droite, avec des attaques puissantes, est au plus près du phrasé pyrotechnique typique du bebop. Sa main gauche a compris qu'avec le rôle dévolu à la contrebasse et la batterie, il ne s'agit surtout pas de faire double emploi. Bud Powell se contente de placer des accents qui soulignent le phrasé de la main droite. Un nouveau type de complémentarité entre les deux mains, et ça sera désormais la norme. Comme tous les héros du bebop, Bud Powell fut un compositeur inspiré, en même temps qu'un exceptionnel improvisateur. Tempus Fugit, Bouncing with Bud, Un Poco Loco, Dance of the Infidels, autant de titres qui vont traverser le temps. Et quand en 1959, histoire de changer d'air, Bud Powell s'exile à Paris, où il passera plus de 5 ans, ses capacités pianistiques ont décliné. Mais pas sa veine de compositeur. Il sera un temps épaulé par un jeune admirateur parisien, Francis Podras, qui l'héberge et le prend sous son aile. Ce qui vaudra à Bud Powell d'inspirer le personnage principal du film Autour de minuit de Bertrand Tavernier. Atteint de tuberculose, c'est très affaibli que Bud Powell décide de revenir à New York en 1964 pour tenter d'y rebondir. Mais il va y décéder peu après, à l'âge de 41 ans. Hank Jones, 1918-2010, ce fut le premier des grands pianistes de Détroit à se faire connaître après la Seconde Guerre mondiale, bien qu'au moment de la guerre, il avait depuis longtemps quitté sa ville. Hank, c'est l'aîné de ses illustres frères, les frères Jones, qui comptent aussi Tad Jones, le trompettiste, et Elvin Jones, le batteur. Adolescent, Hank Jones joua dans des big bands et en 1944, il déménage à New York pour jouer notamment avec John Carby ou Coleman Hawkins. Influencé par les classiques Teddy Wilson et Art Tatum, le style de Hank Jones fut également ouvert au bebop. Il a participé à plusieurs tournées du fameux Jazz at the Philharmonic. Pour la première fois, c'était en 1947. Il a accompagné Ella Fitzgerald de 1948 à 1953. C'est un bail quand même. Et puis il enregistrait avec Charlie Parker. Et dans les années 50, Hank Jones se produisit avec Artie Shaw, Benny Goodman, Lester Young, Cannonball Adderley. 9 mars 1958, Cannonball enregistre l'album Something Else, avec un all-star étincelant où Miles Davis et Art Blakey l'accompagnent. Au piano, c'est Hank Jones. Son introduction de Autumn Leaves, les feuilles mortes, ce jour-là, sur cette prise-là, deviendra la référence absolue des générations de pianistes qui vont suivre et qui chercheront à imaginer une introduction à Autumn Leaves. Il n'y en a pas d'autre que celle de Hank Jones. Thank you. Vers la fin des années 70, Hank Jones enregistrera avec une formation surnommée le Great Jazz Trio, qui comprit différents musiciens à différents moments, dont Ron Carter, Buster Williams ou Eddie Gomez à la contrebasse, et Tony Williams, Al Foster ou Jimmy Cobb à la batterie. En avril 2006, à 88 ans, Hank Jones est l'un des rarissimes survivants de la génération du bebop. C'est lui que choisit le saxophoniste Joe Lovano pour un duo qui se produit au Dizzy's Club du Lincoln Center de New York. L'enregistrement qui sera publié s'appelle Kids, les gamins, et confirme que la sève juvénile du bebop coulait toujours dans les veines de Hank Jones. Aurait-il été un irréductible Gaulois s'il avait vécu en Bretagne sous les Romains ? On peut se poser la question quand on constate à quel point le pianiste non-voyant Lenny Tristano fut imperméable aux options musicales de l'époque du bebop, alors qu'il en fut un contemporain épris de découvertes. Mais justement, trop envie de se singulariser, y compris en accompagnant Charlie Parker. Aveugle à 9 ans, Lenny Tristano devient pédagogue dès 1943 et compte parmi ses élèves les saxophonistes Lee Konitz ou Warren Marsh, qui vont être durablement marqués par ses conceptions. Il fut aussi un pionnier de l'improvisation totale en 1949, avec deux morceaux en septet, libres de toute contrainte mélodique, harmonique ou rythmique, un free jazz qui ne s'appelait pas encore comme ça. En 1951, dans son local de New York, il sera un des premiers à utiliser les techniques de studio pour ses propres enregistrements. Ainsi, explique Ludovic Florin, dans son célèbre line-up en 1955, il enregistre sa main droite seule, deux fois plus lentement, pour obtenir un phrasé et un placement rythmique idéal qui s'approche au plus près de l'articulation vocale, ou de celle d'un instrument avant. Et puis, pour le résultat enregistré, il retrouvera une vitesse normale.
Musique, Jazz Collection, le piano jazz, Alex Dutille.
Disparu à l'âge de 56 ans, Errol Garner, 1921-1977, a bénéficié d'une immense notoriété, symbolisant pour un large public le pianiste de jazz. Un pianiste rugissant, soulignant de ses grognements la puissance de ses lignes mélodiques. Une puissance d'autant plus fascinante qu'Errol Garner était de petite taille, il mesurait 1m57, mais doté de mains d'une envergure exceptionnelle pour s'amuser des sautes d'octaves, notamment sur sa main gauche qui marque les quatre temps, pendant que la droite batifole légèrement en arrière du temps, d'où une tension irrésistible, rendant impatient de la phrase suivante. L'une de ses plus célèbres compositions, Misty, a été chantée par de multiples stars, à commencer par Johnny Mathis. En 71, Clint Eastwood en place la version originale de 1954 au centre de son premier film en tant que réalisateur, Play Misty for Me. Le film raconte l'histoire d'un disc-jockey de radio, joué par Clint Eastwood lui-même, qui est harcelé par une fan qui l'appelle sans cesse pour lui demander de passer Misty. Le film relance l'intérêt du public pour Garner, alors un peu oublié, c'était au début des années 70. On raconte qu'Errol Garner a eu l'idée du morceau dans un aéroport où il attendait, en regardant un arc-en-ciel à travers le brouillard par la fenêtre. Misty signifie brumeux. Une autre version raconte qu'il était dans un avion de Chicago à New York. Une troisième qui pensait à sa femme dans un avion. Mais dans tous les cas, comme il ne savait ni lire ni écrire la musique, il a chantonné la mélodie jusqu'à trouver un piano lui permettant de la jouer. M90, 200 albums, une myriade de prestigieuses collaborations. Oscar Peterson, 1925-2007, est un géant du jazz à tous les sens du terme. Oscar démarra sa carrière en trombe quand le producteur Norman Granz le propulse à 24 ans sur la scène du Carnegie Hall new-yorkais. Le critique du magazine Downbeat de l'époque écrivit « Un citoyen montréalais, Oscar Peterson, a laissé tout le monde bouche bée lors du concert Jazz at the Philharmonic du mois dernier. De plus, il a époustouflé bon nombre des musiciens modernes locaux en jouant des phrases bebop à un seul doigt de la main gauche. » La virtuosité, qui a tant impressionné les musiciens présents ce soir-là, sera à la fois la chance et le handicap de Peterson pendant les 6 décennies de la carrière qui allait suivre. Pour les uns, il est définitivement l'un des plus brillants pianistes de jazz de son temps, et pour d'autres, la maîtrise de son jeu ne cacherait qu'une absence d'émotion. Verdict dans la bouche de Diana Krall quand elle confie que l'album Night Train de Peterson, emprunté à la collection de son papa et écouté des centaines de fois, fut à l'origine de sa vocation de pianiste en même temps que de chanteuse. Louis Armstrong, Ella Fitzgerald, Duke Ellington, Dizzy Gillespie, Stan Getz, Sonny Rollins. Oscar Peterson a enchaîné les conversations au sommet autour de sa carrière, avec tout cela et plein d'autres. Il a aussi adopté la formule piano, guitare, contrebasse, en la reprenant là où Nat King Cole et Art Tatum l'avaient laissé. Mais dans la formule reine du trio piano, contrebasse, batterie, Oscar Peterson a longtemps porté la couronne. L'évidence du swing, un sens inné de la note juste et l'indispensable respiration pour laisser le public s'entendre ronronner de plaisir. Herbie Nichols, il avait 36 ans lorsqu'il a pu enregistrer sa musique novatrice. Alfred Lion, le patron de Blue Note, avait demandé à Herbie Nichols de jouer toutes ses compositions lors d'une répétition et il a voulu enregistrer tout ce que Herbie avait terminé. En l'espace d'un an, Alfred Lion l'a enregistré lors de 5 sessions. Alfred Lion compare cette expérience de la découverte de la musique de Herbie à celle de Thelonious Monk 8 ans plus tôt ou d'Andrew Hill 8 ans plus tard. Une carrière éclair. Tout Herbie Nichols tient en 2 ans et demi et il est fauché par une leucémie à 44 ans au moment où la jeune garde du free jazz le redécouvrait. Herbie Nichols, c'était un pianiste de jazz accompli qui jouait de tout, du jazz, du New Orleans au polka. En fait, ses concerts lui permettaient de payer le loyer, tandis qu'il utilisait son temps libre pour développer sa propre musique. Ses méthodes de composition étaient très peu orthodoxes. La mélodie, la progression des accords et le rythme sont des bases fondamentales de toute composition de jazz. Et ce qui distingue Herbie Nichols, tout comme Monk ou Andrew Hill, c'est la capacité à fusionner ces éléments en une seule entité, bien intégrée. On pense pas séparément, mélodie, accords et rythme. C'est une œuvre parsemée de fantaisie et de mélodies enjouées. Plus que tout autre musicien de son époque, le pianiste John Lewis, qui était né en 1920, disparu en 2001, a cherché à mélanger Jean-Sébastien Bach et le bebop, à insuffler au jazz certaines des formes et de la respectabilité de la musique classique, en le faisant passer des boîtes de nuit aux salles de concert. Ce qu'il a fait, John Lewis, avec un succès mondial pendant 4 décennies en tant que directeur musical du MJQ, le Modern Jazz Quartet. Et se référant à l'utilisation par le pianiste de fugues et d'autres formes baroques, le critique anglais Max Harrison a déclaré que John Lewis avait réussi là où les autres ont échoué à greffer un certain nombre de dispositifs classiques dans la technique du jazz sans faire violence à l'esprit de la musique. John Lewis a créé le Modern Jazz Quartet au début des années 50, cherchant à mélanger l'improvisation influencée par le blues avec des arrangements polyphoniques dans un style aéré qu'on peut qualifier de jazz de chambre. En tant que pianiste, John Lewis conjugue un toucher très doux, un feeling blues et un swing subtil, avec une prédilection pour la sobriété et l'économie, estimant que ses solos improvisés devait être au service de la mélodie. Thank you. Comme John Lewis pour le Modern Jazz Quartet, Horace Silver fut à l'origine d'un groupe, les Jazz Messengers, avant d'en laisser le volant à Art Blakey. Et la phrase qui figure en ouverture de son autobiographie, en français ça s'appelle « Passons aux choses sérieuses », était bien à l'image de la personnalité du pianiste et du compositeur Horace Silver, qui nous a quittés en 2014 à l'âge de 85 ans. Je le cite « J'ai eu le privilège de collaborer et de jouer avec quelques-uns des grands génies de cette musique que nous appelons si amoureusement le jazz. Comme j'ai pu être inspiré par eux et continue de l'être, j'espère qu'à mon tour, je pourrai inspirer les jeunes musiciens d'aujourd'hui. » Fin de citation. Ben, il a été entendu. Et sous la signature de Sylvain Siclier, le monde rappelait au moment de sa disparition qu'il fut, Horace Silver, chaleureux, généreux, soucieux de partager son savoir, souriant avec humilité quand il lui était rappelé qu'il avait été avec Art Blakey l'un des inventeurs du hard bop, ce courant musical qui associe au bebop les éléments de rhythm and blues et de gospel à partir des années 50. Il était né en 1928 dans le Connecticut. Horace Silver a étudié conjointement le saxophone et le piano, on ne s'en rappelle pas toujours. Il écoute du jazz, s'intéresse aux musiques du Cap-Vert dont son père est originaire, et il va citer parfois des éléments comme les musiques afro-cubaines et latino-américaines durant sa carrière. Horace Silver jouant sa composition Horace Scope. Bobby Timmons, 1935-1974, est devenu célèbre pour les marques de gospel et de blues funky de ses solos, mais aussi de ses compositions, tant et si bien que ses talents de pianiste bebop inspirés par Bud Powell ont longtemps été occultés. Après avoir émergé de la scène jazz de Philadelphie, Bobby Timmons est responsable du succès commercial des Jazz Messengers d'Art Blakey et du quintet de Cannonball Adderley dont il faisait partie. Pour Blakey, avec qui il était en 58-59, Bobby Timmons a écrit le classique des classiques Moanin'. Et après avoir rejoint Cannonball en 1959, sa chanson This Here, suivie plus tard par That Dear, est devenue un énorme succès. Bobby Timmons, qui enregistrait déjà en tant que leader pour Riverside, a rapidement formé son propre trio, bien qu'il ait influencé de nombreux musiciens, comme Les McCann, Ramsey Lewis ou plus tard Benny Green. La carrière de Bobby Timmons déclinera peu à peu. Il s'effacera dans l'anonymat, il continuera à travailler jusqu'à sa mort, à l'âge de 38 ans seulement, des suites d'une cirrhose du foie. Bobby Timmons, en 1960, jouant sa composition « That Dear », autrement dit, les fonds baptismaux de ce qu'on va appeler le soul jazz. C'était le deuxième épisode de la série Piano Jazz dans la Jazz Collection de France Musique proposée par Alex Dutil. Prise de son et mixage Valérie Davalard, attaché de production Emmanuel Lacaze, réalisation Pierre Villers.
France Musique.